Sébastien Paour pour l'info. Bonsoir Sébastien.
Bonsoir à tous. L'air irrespirable et pas seulement en pleine canicule. Une mère et sa fille gagnent en justice après des années de problèmes respiratoires. L'État n'a pas pris assez de mesures pendant les pics de pollution. On vous explique cela dès le début du journal. Encore plus chaud aujourd'hui qu'hier, 65 départements en vigilance orange. Et la température monte encore. Critère 2 maximum demain sur Paris et jusqu'à l'A86 comme à Lyon. On fauche les foins avant qu'ils ne brûlent en Creuse. Lisieux en Normandie est sous la boue. Reportage à suivre. Au sommaire également ce soir, Sciences Po Paris qui met fin à son concours d'entrée en première année. Le retour mouvementé de la Russie au Conseil de l'Europe. L'Ukraine se fâche. Et tout ce que nous ne mangeons pas au téléphone sonne, Fabienne.
Absolument, on parle de gaspillage. On fait des progrès en France pour arrêter de jeter les invendus alimentaires. On pense désormais aux associations. On sait inventer des épiceries d'un nouveau genre. On met la pression sur les grandes surfaces, mais il y a encore beaucoup de travail à faire. On jette, Sébastien, l'équivalent de 10 millions de repas par an. Bref, on finit pas nos assiettes. N'en jetez plus. Ça se passe au 01 45 24 7000.
France Inter. L'air que nous respirons en ce moment est étouffant de chaleur, mais il est parfois étouffant tout court quand les gaz dans l'atmosphère sont en concentration trop importante, comme en décembre 2016 en région parisienne. À l'époque, Farida et sa fille habitent près du périphérique à Saint-Ouen. Crise d'asthme et bronchite sont encore plus fortes en cas de pic de pollution. Alors elles assignent l'État pour carence fautive. Et la justice dit aujourd'hui, Charlotte Piret, qu'il y a bien eu faute de l'État.
Une insuffisance des plans relatifs à la qualité de l'air pour l'Île-de-France. C'est ce que dénonce le tribunal administratif de Montreuil dans sa décision. Résultat, selon la justice, des seuils de concentration de certains gaz dépassés de manière récurrente. Maître François Laforgue, avocat au barreau de Paris, défendait dans ce dossier Farida, 52 ans, et sa fille.
La maman était victime de bronchite à répétition et la fille était victime d'asthme, un asthme chronique. Donc elles ont dû déménager en province, à Orléans, et depuis, eh bien, leur état de santé s'est amélioré. Je crois que ce pic de pollution de décembre 2016 a entraîné une révolte des victimes de la pollution de l'air. Il y a eu un véritable ras-le-bol et elles ont décidé d'engager des procédures contre l'État. Aujourd'hui, on espère que cela va inciter l'État à prendre enfin des mesures efficaces et adaptées contre la pollution de l'air.
En ce qui concerne Farida et sa fille, le tribunal n'a cependant pas reconnu le lien de causalité entre la pollution et leurs problèmes respiratoires. Pas d'indemnisation pour elles donc, mais une décision qui pourrait faire jurisprudence pour la cinquantaine d'autres dossiers déjà déposés devant la justice. Nadir Saïfi est le vice président de l'ONG Écologie sans frontières.
C'est une décision historique. Donc toutes les personnes en France qui se considèrent comme victimes de la pollution de l'air avec un dossier médical sérieux peuvent aller devant les tribunaux et peuvent demander des indemnisations maintenant à l'État.
Selon les associations, ce sont plus de 5 millions de personnes qui souffrent à des degrés divers de la pollution de l'air en France.
Et trois cas similaires seront donc examinés demain à Paris par la justice. Jeudi à Paris par la justice, la pollution de l'air tue 48 000 personnes chaque année en France. Depuis dimanche et chaque jour un peu plus, l'air est très chaud sur la majeure partie du pays. 65 départements maintenant en vigilance orange canicule, 12 de plus qu'hier, avec les pics de pollution qui y sont liés. Alerte maintenue pour les Bouches-du-Rhône et le Vaucluse. Circulation différenciée demain à Lyon comme à Paris et en grande banlieue. Les vignettes critère 3 ne pourront pas circuler. Ça concerne 1 million de véhicules en Île-de-France. Forfait transport à 3,80 € pour presque toute la région parisienne demain. Le gouvernement reporte le brevet. Agnès Buzyn fait le point tous les jours et multiplie les sorties de communication, sensibilisation sur le terrain. Ne pas être mobilisé, ce serait vivre dans une autre époque, a dit Édouard Philippe. C'était cet après-midi à l'Assemblée.
Le fait que notamment ces épisodes extrêmes se répètent de façon de plus en plus rapprochée et que la normale est en train de devenir le normal, conséquence du réchauffement climatique, et que nous devons donc, au-delà des mesures d'urgence, elles sont légitimes, mais elles ne sont pas suffisantes, nous adapter, adapter notre société, adapter notre bâti, adapter notre urbanisme, adapter nos services publics. Nous devons prévenir le fait que ce soit encore pire dans les années qui viennent. Autrement dit, urgence, vigilance, adaptation, prévention, c'est en faisant tout cela que nous serons à la hauteur des enjeux. Ils sont considérables et nous savons qu'au fur et à mesure des années qui viennent, ils ne vont pas diminuer.
On est loin du ministre Jean-François Mattei en août 2003 au JT de 20h en polo depuis ses vacances alors qu'on ne comptait plus les personnes âgées aux urgences. 15 000 morts en 2 semaines à l'époque. Pour l'heure, pas de victimes de la canicule, simplement toute une organisation à mettre en place avec le report du brevet, on en parlait hier soir, qui concerne finalement aussi Mayotte et La Réunion. Aurore Métainier est principale du collège Suzanne Lacor dans le 19e arrondissement à Paris et elle s'adapte tant bien que mal.
Ce n'est pas une situation qui est particulièrement agréable, puisqu'effectivement, il faut tout réorganiser, ressortir l'ensemble des convocations pour les élèves, mais également pour les enseignants. Les enseignants doivent également faire preuve d'adaptation face à cette situation de crise. Ils ont vraiment été extrêmement professionnels pour que cette épreuve puisse se dérouler dans les meilleures conditions possibles pour les élèves. Par contre, effectivement, côté famille, côté élèves, nous avons eu un certain nombre d'appels de parents inquiets, d'élèves inquiets. J'ai fait le choix d'informer par SMS, mais également via notre environnement numérique de travail, tous les élèves et toutes les familles de 3e, en leur donnant bien les horaires de lundi et mardi et l'organisation. Donc ils ont déjà l'information avant même d'avoir la convocation en main. Ils l'auront a priori dès demain.
Et Jean-Michel Blanquer demande aux principaux d'avoir une vision large de ce qu'est un empêchement majeur qui permet de passer le brevet à la session de septembre. Chaud dans les classes, chaud aussi dans les champs, jusqu'à 41 demain et jeudi dans la Creuse. Alors pour assurer les stocks de foin pour les bêtes, eh bien les éleveurs ont sorti tous leurs tracteurs pour faucher avant que la chaleur ne fasse trop de dégâts. Reportage embarqué à Saint-Sylvain-Montaigu, signé Simon Soubieux.
Voilà plus de 5 heures que Didier est au volant de son tracteur pour faucher l'herbe au de 80 cm et il n'y a pas de temps à perdre.
Parce que le soleil est là, c'est la météo qui nous fait faire le foin. S'il pleut, on va pas faucher, on va éviter.
Les éleveurs n'ont pas le choix, la température va grimper violemment dans les prochains jours.
Mercredi et jeudi, c'est les deux journées les plus chaudes de la semaine. Ça risque de le griller, oui, donc si ça écrase quand on va le ramasser, ça peut faire du dégât, oui. Donc on va essayer d'y faire assez rapidement, quoi.
Les éleveurs le disent, ils vont faucher jusqu'à demain, grand maximum, car ces récoltes sont vitales. C'est tout simplement le foin qui sera donné aux bêtes en automne et en hiver.
Vu l'hiver dernier et l'été dernier qu'on a eu, les stocks se sont épuisés.
Et pour l'instant, pour Didier, la récolte est plutôt satisfaisante.
Pour l'instant, qualité, c'est bon. Quantité, il y a du fourrage.
Un constat partagé par Rémi dans le champ d'à côté.
Elle est bien, là, oui. Elle est pas pourrie, quoi.
En attendant de tout transformer en bottes de foin, il y a encore beaucoup de travail sous la chaleur.
Heureusement qu'on a la clim, parce que sinon...
Si la canicule ne dure que cette semaine, ça ira, disent-ils. Mais si la chaleur se poursuit plus longtemps, il risque de vivre encore un été compliqué avec une sécheresse comme l'année dernière.
Reportage signé Simon Soubieux. Et pendant que certains se dépêchent face au mercure qui grimpe, d'autres luttent contre les conséquences des orages. En Normandie, la ligne SNCF Grand Paris est coupée et ne sera pas remise en service avant demain. Inondation inédite à Lisieux, dans le Calvados, d'après le maire. 130 habitations sinistrées sur sa ville et la commune voisine de Saint-Désir. Plusieurs entreprises touchées, une quinzaine de familles relogées. Reportage d'Alouane Lejeune.
La tranquille rue Henri Papin est méconnaissable. Noyée sous la boue, les habitants ont vu déferler ici une véritable vague vers 1h du matin. Angelo raconte.
Les portes d'entrée ont cédé et la vague nous a emportés. Je suis tombé au sol et ma compagne m'a relevé. On a essayé de sortir de la maison comme on pouvait et essayer de se mettre en hauteur.
Dans une maison voisine, Karine et Samuel ont tout perdu.
Ça, c'est votre salon ?
Non, c'était.
Il y a eu combien d'eau là ici ? 1m60, 80. Il y a un bout de bois qui a défoncé la porte et qui est rentré. Et tout est engouffré dans la maison. Ah, voilà, les enfants étaient à l'étage. On a appelé ma soeur, elle est venue les évacuer. Depuis 3h du matin, on tire la boue.
Enfin, Hervé Morel, tapissier décorateur, ne peut que constater les dégâts.
Toute la partie atelier, ça a pris 30 cm. Il y a du tissu, de la mousse, tout absorbe, tout est mort. Hein. Le canapé, pour vous donner une idée, il fait 200 kg là. Il a bougé de 5 mètres.
Un peu plus loin, l'entreprise coopérative SCAM, qui fait de l'agencement de magasins, a été inondée par une dizaine de centimètres de boue. Et ici, tous les salariés, comme Armel Ozen, se sont retroussés les manches.
Même les pompiers étaient surpris de voir tous nos gars avec la raclette ce matin. On a été dévaliser le magasin de raclette à l'ouverture. Et puis, écoutez, c'est dramatique, mais on va se relever, hein, parce qu'il n'y a pas de raison.
Ici, normalement, il ne devrait pas y avoir de chômage technique. Tout le monde travaillera à la remise en état, en attendant les indemnisations de l'assurance, conclut le patron. Nolwenn Lejeune, France Bleu Normandie pour France Inter.
Le temps demain en Normandie et sur le reste du pays, c'est avec Elodie Calac à la fin du journal.
Allez, à 19h09, Sébastien, voici une petite révolution à la page éducation.
Oui, Sciences Po Paris se transforme et se rapproche encore un peu plus des lycées défavorisés. Bonsoir Sonia Princey.
Bonsoir.
L'école annonce qu'elle met fin à son concours d'entrée en première année.
Oui, fini les épreuves écrites pour lesquelles les candidats bachotaient ou passaient par des prépas privés. À partir de 2021, la procédure d'admission reposera sur 4 critères. Les notes du contrôle continu, de la seconde à la terminale, les notes obtenues au nouveau bac dans les spécialités que les élèves auront choisies, et le profil du candidat et sa motivation. À partir de ces trois premiers critères, l'élève pourra être admissible. Il passera alors un entretien oral, quatrième critère, qui comptera tout autant, qui ne sera pas éliminatoire.
Et toutes ces modalités vont s'appliquer à tous les candidats ?
Oui, y compris les étudiants internationaux ou les élèves issus des conventions éducation prioritaire qui jusque-là ne passaient pas les épreuves écrites. Actuellement, Sciences Po travaille avec 106 lycées. L'école va doubler le nombre de ces conventions pour toucher aussi des lycées qui ne sont pas en éducation prioritaire mais dont les élèves sont issus de milieux défavorisés, dans les zones rurales par exemple, effet gilet jaune sans doute. Le directeur de Sciences Po, Frédéric Mion, assume le terme de discrimination positive. Il va réserver 15% des places aux boursiers des conventions et au total, il souhaite 30% de boursiers dans chaque promotion contre 26% aujourd'hui. L'objectif de la réforme est d'aller chercher de nouveaux talents dans des territoires où Sciences Po ne fait pas partie de l'horizon des élèves.
Et Sciences Po Paris intégrera la plateforme Parcoursup dès l'an prochain. Merci Sonia Princey. La mesure avait été votée à l'unanimité par les députés. Le décret est paru aujourd'hui au Journal officiel. Les pères de bébés prématurés ou hospitalisés pourront avoir un nouveau congé paternité à partir du 1er juillet jusqu'à 30 jours consécutifs à prendre dans les 4 mois qui suivent la naissance en plus des 11 jours qui existent déjà. La Cour des comptes, dans un registre assez inédit dans son rapport sur les finances publiques, elle juge que la France risque de ne pas atteindre son objectif de réduction du déficit en 2020. Bonsoir Delphine Simon.
Bonsoir.
Et notamment parce qu'il sera difficile de compenser les baisses d'impôts sur le revenu et la revalorisation des retraites promises par Emmanuel Macron après le grand débat.
Oui, le gouvernement est en train de boucler le budget pour l'an prochain. En principe, il doit préciser dans quelques jours ses ambitions en matière de déficit. Mais les sages de la rue Cambon ne se font pas d'illusions. L'objectif affiché en avril, 2% de déficit public en 2020, ne sera pas tenu. Alors le gouvernement a-t-il un peu relâché la pression ? En tout cas, les annonces tirées du grand débat, les baisses d'impôts pour les ménages et la revalorisation des retraites, ces dépenses nouvelles, le gouvernement veut les compenser en supprimant notamment des niches fiscales. Sauf que ça ne suffira pas, estiment les sages de la rue Cambon. Et du coup, l'écart va se creuser avec nos voisins qui font plus d'efforts. S'alarme Didier Migaud, le premier président de la Cour des comptes.
On constate que la situation de la France par rapport à ses partenaires de l'Union européenne et de la zone euro, c'est plutôt dégradé. En 2018, la France était aussi parmi les pays qui ont le déficit le plus haut, à part Chypre. Donc nous attirons l'attention sur cette situation en disant attention, prudence, d'autant qu'en plus les objectifs de redressement de nos comptes publics ont été réduits à la baisse. Cela est préoccupant.
Préoccupant car si pour l'instant la France emprunte à très bon marché, ce qui lui donne un peu d'oxygène, en cas de choc économique ou de crise financière, elle sera plus fragile que ses voisins, rappelle la gardienne des comptes publics.
Autre avertissement, celui du gouverneur de la Banque de France à Facebook qui veut lancer sa crypto-monnaie. Libra devra appliquer la réglementation anti-blanchiment, prévient François Villeroy de Gallo, et ne pourra pas proposer des services bancaires sans licence entretien dans l'Obs. De nouveaux repères alimentaires pour nous aider à mieux manger. L'Agence de sécurité sanitaire propose des recommandations selon les classes d'âge et elle s'inquiète, Véronique Julia, de la consommation de sucre des 4-17 ans, très au-dessus de ce qu'elle devrait être.
Un seul exemple, les trois quarts des 4-7 ans, c'est-à-dire des enfants scolarisés en maternelle, consomment trop de sucre et sont au-dessus de la norme admise. À cet âge, on ne devrait pas consommer plus de 60 grammes de sucre par jour, l'équivalent de 10 morceaux. Les trois quarts d'entre eux sont donc au-dessus, un phénomène d'autant plus inquiétant que les mauvaises habitudes alimentaires souvent se pérennisent et laissent des traces à l'âge adulte en favorisant ensuite obésité et diabète. Pour le professeur Irène Margaritis, chef de l'unité nutrition à l'ANSES, c'est dans les sacs du goûter qu'on trouve les principaux aliments à proscrire. Gâteaux, biscuits, sirops, jus de fruits et sodas, c'est donc à l'heure du goûter surtout qu'il faut changer les habitudes.
Les enfants qui sont les plus forts consommateurs de sucre sont aussi les enfants qui consomment beaucoup de sucre au goûter. Tous ces aliments qui sont faciles à manger, qui sont en fait faciles à transporter, mais il peut y avoir des alternatives. L'idéal, c'est que les parents optent pour des aliments qui peuvent contenir des glucides plutôt complexes, ce qu'on appelle des sucres lents tout simplement. Le pain contient des sucres lents, du pain avec un morceau de fromage, avec ça peut être des fruits.
Bref, préférez le goûter maison avec des produits simples dont on connaît et maîtrise la teneur en sucre. Les biscuits et autres sodas sont d'autant plus à proscrire qu'au-delà d'être sucrés, ils sont souvent aussi, d'après l'ANSES, pauvres en apports nutritionnels de type calcium ou fer.
Et au téléphone sonne à 19h20, Fabienne, le gaspillage alimentaire.
Absolument, au 01 45 24 7000.
Du nouveau dans deux enquêtes sur deux attentats différents ces dernières années. D'abord, les attaques de Trèves et Carcassonne, il y a un peu plus d'un an, 4 morts dans l'expédition meurtrière qui s'était terminée au Super-U, dont celle du gendarme Beltrame. 5 personnes âgées de 19 à 29 ans ont été arrêtées ce matin. Elles sont soupçonnées d'avoir aidé l'auteur des attentats à se procurer son arme. Et puis l'autre enquête, c'est celle sur l'attentat de Magnanville dans les Yvelines. L'assassinat d'un commissaire et de sa compagne il y a 3 ans. 3 hommes de 32, 34 et 36 ans sont en garde à vue depuis ce matin. Ils font partie, nous dit-on, de l'entourage du tueur Larossi à Bala et de son complice.
Chaude ambiance au Conseil de l'Europe.
Le retour de la Russie fait du bruit dans cette institution qui demande des comptes au pays sur les droits de l'homme et la démocratie. Elle était privée de droit de vote, la Russie, depuis l'invasion de la Crimée en 2014. Alors, l'Ukraine claque la porte. Bonsoir Louise Baudet.
Bonsoir Sébastien.
Le retour de Moscou était soutenu par Paris et Berlin. Pour une histoire de gros sous, semble-t-il, la Russie menaçait de ne plus payer sa participation, c'est ça?
Eh oui, 33 millions d'euros annuels de manque à gagner, réduction d'activité à la clé. Dans cette affaire, l'argent a pesé, mais ce n'est pas, vous l'imaginez bien, le motif officiellement avancé. Privé de son droit de vote, Moscou menaçait de claquer définitivement la porte. Conséquence, l'impossibilité pour les citoyens russes de saisir la Cour européenne des droits de l'homme, le bras juridique du Conseil de l'Europe. C'est donc cet argument qui a, paraît-il, pesé, alors que la Russie passe outre la plupart des jugements de la Cour, relèvent les anti-Kremlin, qui dénoncent un festival d'hypocrisie. L'Ukraine est furieuse et se sent trahie, car dans le Donbass comme en Crimée, Moscou n'a rien concédé depuis 5 ans, pas même la promesse d'un échange de prisonniers. Mais voilà, une majorité d'États membres, France en tête, craint la rupture complète avec Moscou et préfère garder la Russie à l'intérieur plutôt que d'avoir à la redouter à l'extérieur. Et tant pis pour le nouveau président ukrainien, Volodymyr Zelensky, tout juste reçu à Berlin et Paris. Les tapis rouges sont à peine repliés qu'il fait déjà l'apprentissage de la réelle politique.
Louise Baudet, Moscou remet une pièce dans la machine au sujet du drone américain abattu par l'Iran. Il était bien dans l'espace aérien iranien, comme l'affirme Téhéran. Le conseiller de Vladimir Poutine assure qu'il se fonde sur des données militaires. Quant aux nouvelles sanctions américaines, elles ferment définitivement le canal diplomatique pour les Iraniens. La porte reste ouverte à la négociation, répond John Bolton, le conseiller à la sécurité nationale de la Maison-Blanche. L'Élysée fait savoir ce soir qu'Emmanuel Macron a eu son homologue iranien au téléphone, Hassan Rohani.
Qui pour succéder à Bernard Laporte à la tête de la Fédération française de rugby?
L'élection aura lieu dans 1 an et demi. Le sortant a déjà dit qu'il serait candidat et on connaît désormais son concurrent. La liste Ovale Ensemble, conduite par Florian Grille, président de la Ligue d'Île-de-France, qui veut en finir avec une crise sans précédent, selon ses termes. Portrait d'un inconnu avec Jérôme Val.
Il y a peu encore, c'est l'ancien sélectionneur Marc Lièvremont qui était pressenti pour mener la fronde contre Bernard Laporte. Mais celui qui a porté les Bleus jusqu'en finale du Mondial il y a 8 ans a renoncé. La liste Ovale Ensemble a donc choisi Florian Grille, qui lui ne veut pas se voir comme un plan B. Cet ancien deuxième ligne amateur dirige la Ligue d'Île-de-France et revendique 2 décennies de bénévolat dans le rugby. Mais il a su s'entourer de figures beaucoup plus connues. Serge Blanco, qui avait déjà fait campagne contre Bernard Laporte il y a 3 ans, Jean-Claude Scrella, ancien sélectionneur Jean-Marc Lermé, l'une des clés de la réussite du club de Clermont, ou encore l'ancien international Fabien Pelous. Cette liste se veut aussi le reflet du rugby actuel, avec des représentants du monde amateur et du rugby féminin. Florian Grille se donne 200 jours pour labourer le terrain, expliquer son projet pour résoudre, dit-il, la crise inédite traversée par le rugby français. Il se dit aussi prêt à parer à toute réplique du clan Laporte, qui ne devrait pas tarder.
Le Caravage de Toulouse, si c'en est un, est vendu. La toile retrouvée dans un grenier en 2014 devait être adjugée après-demain. Mais la maison d'enchères l'a cédée cet après-midi. On ne sait pas à qui, on ne sait pas pour combien, juste que c'est à un acheteur étranger, un collectionneur proche d'un grand musée, et que le tableau Judith et Holoferne était estimé entre 100 et 150 millions d'euros. Ces prix à lui vont peut-être grimper d'un cran. À partir de demain, le restaurant Mirazur à Menton, sur la Côte d'Azur, élu tout à l'heure meilleur restaurant du monde. Au piano, le chef argentin Mauro Colagreco, 42 ans, 3 étoiles Michelin, qui dit s'inspirer de l'oiseau, de Passard, de Ducasse ou encore de Guy Martin. On aimerait goûter sa betterave en croûte de sel, sauce au caviar, ou son huître Gilardo, crème d'échalote et déclinaison de poire.
C'est vrai.
Pizza, moi, ce soir.
Mais alors, j'allais dire, j'aime pas les huîtres, mais en même temps, c'est pas grave. Bah, oui, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, Sébastien?
C'est pas possible.
Je peux rester quand même ou pas?
Oui, restez, il y a de la pizza, il y a de la betterave en croûte de sel.
Amélie, qui est la programmatrice et qui, effectivement,
qui mange bien
les huîtres. Allez.
Sinon... La météo avec les cafés Malongo, grand cru biologique et équitable, créateur de machines expresso à dose fabriquées en France, à retrouver sur malongo.com.
Ah ben, Elodie Calac, on a chaud alors, mais on n'est pas tout seul.
Et oui, 65 départements en vigilance orange canicule à présent. Cette nuit, le thermomètre sera trop élevé. 15 degrés à Saint-Brieuc, c'est vrai, mais 20 degrés à Tours, à Dijon, 22 à Paris, Lyon et Toulouse, 25 à Nice. Demain après-midi, 23 degrés à Cherbourg, 28 à Lille, on respire encore correctement. 33 degrés à Rennes, ça monte, 35 à Paris, 38 degrés à Nancy et à Nîmes, 39 pour Bordeaux, pour Lyon, 40 degrés du côté de Nevers, Limoges et Grenoble et 41 pour Clermont-Ferrand.
Et sinon, tout ça, ça se passe donc sous le soleil.
Avec quelques exceptions, le matin, des nuages sur le Pays Basque et l'extrême nord. Sur la Bretagne, le Cotentin, attention aux orages ce soir et cette nuit. Il restera quelques averses orageuses demain matin. Jeudi, vendredi, pic de chaleur annoncé, souvent 37 à 42 degrés, localement un petit peu plus. Ça s'arrangera progressivement par le nord-ouest à partir de dimanche avec l'arrivée d'air moins chaud.
Allez, restez au frais avec nous. Merci Elodie Calac.